Gloire à Dieu. On continue notre étude sur le guide de prière. On a encore quelques points à regarder avant de commencer à entamer les sujets de prière qui sont déjà comme demandés dans la Bible de prier. C'est Dieu qui nous demande parce qu'on croit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous croyez que les Écritures, c'est inspiré de Dieu? C'est Dieu qui a parlé aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs. Puis ils ont été inspirés, puis ils ont écrit ce qu'on a aujourd'hui dans le recueil qui s'appelle le Nouveau Testament. Là-dedans, on retrouve les livres, 27 livres, qui sont là pour nous enseigner ce qui fait partie de la Nouvelle Alliance. Toutes les promesses qu'il y a là-dedans, c'est pour qui? C'est pour nous, le peuple de Dieu, pour ceux qui sont rachetés, ceux qui font partie de la famille de Dieu. Là-dedans, il y a des promesses, puis dans ces promesses-là, des fois, ça nous dit « Priez, puis vous allez avoir telle affaire. » Fait que les déclarations de la parole de Dieu nous demandent, nous proposent ou nous suggèrent, ou appelez ça comme vous voulez, nous ordonnent de prier pour des affaires, puis il y a des promesses que Dieu t'a pour le faire. Puis il y a aussi des encouragements dans la parole de Dieu quand la Bible nous dit « Priez pour telle affaire, priez pour telle affaire. » Il y a des encouragements. Puis je ne crois pas que les sujets de prière qui sont dans la Bible, que ce soit juste pour passer le temps. Quand Dieu nous demande de prier, c'est parce qu'il y a une raison importante pour nous de le faire. Dieu, il y a des choses comme qui nous avertit dans plein de passages, qui nous avertit de persévérer, mais ça nous dit aussi « veillez y prier afin d'avoir la force de tout surmonter ». Donc, on le voit qu'il y a des sujets de prière qui font partie même, qui est même salutaire pour qu'on soit encore debout quand Jésus va venir nous chercher. Voyez-vous? Fait que c'est important, si on veut prier d'une manière, commencer à bâtir une vie de prière plus systématique, parce que, comme j'ai dit, il y a deux sortes de prières dans la Bible. Il y a la prière poussée par le Saint-Esprit. Il te fait prier pour des sujets spécifiques, puis si on n'enlève pas ce côté-là. Mais ça, c'est la prière par l'Esprit. Mais il y a aussi la prière avec l'intelligence. Puis ça, c'est, lis la Bible, va sortir les versets, puis les promesses, puis les sujets de prière. Puis fais-toi une liste, puis bâtis-toi, commence à prier pour les choses qui sont déjà dites de prier. Puis c'est sûr qu'on va en avoir une bénédiction. Notre vie spirituelle va s'accroître parce qu'on va développer un contact plus direct avec le Seigneur. On peut dire « j'aime le Seigneur » puis « lui-même », mais si on se parle pas, disons que la relation est un peu superficielle. Apprendre à connaître Dieu, puis y parler, puis lui il nous parle, puis là on apprend à être à son écoute, puis là on vit des affaires, on lui demande des choses, il agit, c'est encore plus bénissant, on se sent plus dedans, puis on est plus encouragé, puis on le partage avec les autres aussi sont encouragés, fait qu'on peut, on s'échange des sujets de prière, je suis exaucé de ça, le Seigneur m'a répondu, ça l'encourage tout le monde. Tout le monde va grandir, ça va être une bénédiction pour l'Église. Dieu veut nous bénir, mais il veut aussi bénir les autres. Puis ceux qui ont plus de misère à prier, puis qu'ils n'y arrivent pas, mais on peut prier pour eux, pour les aider à ce qu'ils puissent starter. C'est comme un vieux moteur qui ne part plus après un char. Qu'est-ce qu'on fait? Mais des fois, on est obligé d'y faire une opération, commencer à changer des morceaux après, puis jusqu'à temps que le moteur fonctionne. Mais une vie chrétienne, c'est se poser d'être aussi accompagné d'une vie de prière. Si ça marche, si on n'a pas de vie de prière, ça prend un tune-up pour nous remettre d'aplomb, puis là, on a besoin des prières des autres pour être, comme qu'on dirait, starté, en bon canadien français. On est rendu dans une liste de versets à méditer, parce que Dieu nous parle par plusieurs versets pour nous exhorter les chrétiens à demeurer dans un esprit de prière et de confiance. Il y a plein de versets qui nous en parlent de demeurer dans un esprit de prière. On a vu les trois premiers la semaine passée. Là, on est rendu dans Philippiens 4-6. Là-dedans, tous ces versets-là, c'est dans le but de nous booster, de nous motiver, de nous pousser à ce qu'on commence à prier parce que c'est important afin de demeurer dans un esprit de prière. Dans Philippiens 4-6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, des remerciements. Ça peut être exprimé par un chant qui louange Dieu, mais si je fais une action de grâce comme le merci Seigneur d'avoir répondu à ma prière. Fait que là, j'ai parlé tout haut pour dire merci au Seigneur. C'est une action de grâce. On rend grâce à Dieu. On remercie Dieu publiquement dans l'église ou on peut le dire direct seul avec Dieu dans notre chambre, à coucher chez nous quand on prie. Mais quand tu le dis dans l'église, ça communique aussi une bénédiction aux autres de dire « Ah, elle a été exaucée, elle a remercié le Seigneur. » Puis il y en a peut-être qui priaient pour toi aussi, puis t'as aidé à prier là-dedans. Fait que tout le monde va dire « Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. » Mais c'est soit qu'on y dit merci direct de notre bouche, ou on peut le chanter aussi, mais on en chante à toutes les réunions des actions de grâce, mais on n'a peut-être pas tout le temps nos sujets de prière dans la tête quand on les chante. On chante le chant, mais on pense pas « Ah, oh, Dieu m'a exaucé cette semaine, j'ai eu telle affaire ». Mais ça, faut que tu y penses à ton besoin, puis là, tu lui dis merci pour cette affaire-là. C'est plus des petites affaires, puis dis merci. À chaque affaire qu'il te donne, reconnais-le dans toutes tes voies. Ce qu'on remarque dans ce passage-là, c'est pour nous pousser à demeurer dans un esprit de prière, mais il y a une chose qui font que les chrétiens apprennent à enlever de leur vie dans ce verset-là. Inquiétez-vous de rien. L'inquiétude, c'est comme du doute. Tu t'inquiètes, c'est que tu n'as pas encore remis la chose au Seigneur, ou soit que tu y as remis, mais t'en reprends des bouts. Tu t'inquiètes, tu t'en fais. Tu penses que t'es pas sûr que ça va marcher. T'es pas sûr que Dieu va te répondre. C'est comme si dans ton inquiétude, c'est dans un côté, tu t'inquiètes, tu démontres que tu crois pas que ça va s'arranger, puis d'un autre côté, tu le demandes au Seigneur. C'est comme un peu si ça nuit à notre prière, l'inquiétude. C'est comme du doute. Il faut apprendre à arrêter de s'inquiéter. On peut pas rendre blanc ou noir un seul de nos cheveux. Par nous-mêmes, on peut pas changer même notre vie. Oui, on peut faire des efforts, puis y penser, puis se le rappeler, mais c'est en demandant à Dieu les choses, en y faisant confiance à lui, en lui remettant les choses qu'on... Là, après ça, tu dis, là, c'est plus mon problème, c'est le problème de Dieu. Tu t'inquiètes plus? Si ça arrive plus tard que tu l'obtiens, mais ça aura été le temps de Dieu, non pas que tu t'es inquiété tout le long, puis là, tu n'étais pas sûr si ça va arriver. Puis faut enlever ça, l'inquiétude. Faut apprendre à arrêter de s'inquiéter, puis à la place, qu'est-ce qu'ils nous demandent de faire? Ils disent, en toute chose, ça veut dire pour n'importe quoi que tu as à vivre, n'importe quoi que tu as à faire, fais connaître ton besoin à Dieu. Parle-y-en de tout ce que tu vis, de ce que tu ressens, de ce que tu penses. Même de ton inquiétude, si ton inquiétude te ronge, pour que ça arrête, parle-y-en au Seigneur. Remets ça entre ses mains. Mandis qu'il vienne te changer. Puis là, fais des prières, des supplications, puis des remerciements. Puis tu vas voir que les choses vont s'arranger. Puis c'est Dieu qui va le faire. C'est pas toi. Toi, tu peux forcer un peu, tu peux prier, mais tu vas obtenir tes affaires bien plus vite quand tu remets ça dans les mains du Seigneur. Parce que tu y vas avec tes forces, des fois, c'est bien long. Tu peux t'inquiéter, puis j'ai pas vu grand monde régler des problèmes par l'inquiétude. L'inquiétude, ça règle pas bien de problèmes. C'est bien au contraire. Si tu t'inquiètes trop, tu vas tomber malade, tu vas aller à l'hôpital, tu vas être en dépression ou tu vas être démoli. Tu vas être découragé ou tu vas t'enfer, tu vas avoir des ulcères, tu vas se passer quelque chose de négatif avec l'inquiétude. Fait qu'il faut apprendre à bannir l'inquiétude. On enlève ça de notre vie, un chrétien, faut qu'il arrête de s'inquiéter, puis tu commences à prier. Tu demandes à Dieu. Fait que ce verset-là nous exhorte, arrête de t'inquiéter, fais-y confiance, puis ça dit, fais des prières, fais connaître tes besoins à Dieu, fais des prières, des supplications, des remerciements, ta vie va changer. Tu vas prendre la vie d'un autre angle. Tu vas dire, j'ai tout remis ça dans les mains du Seigneur. Tu vas marcher avec confiance, assurance. Tu vas être en paix. Tu ne te casseras pas la tête. Puis tu vas attendre en silence le secours de l'Éternel. Parce que quand il y a de l'inquiétude, il y a souvent des paroles négatives qui sortent de notre bouche, qui sortent de l'inquiétude. Puis là, on transmet ça aux autres. Ça marchera jamais. J'y arriverai pas. Je pense pas que ça va arriver. Puis là, on vit négatif avec cela. Voyez-vous? Il y a tout du positif à faire confiance à Dieu. C'est pour nous amener dans le positif. Dans Luc 18, les versets 7 et 8, un autre super beau verset que j'en ai déjà parlé dans des prédications, c'est l'histoire de la veuve qui allait avoir un juge méchant. Puis le juge méchant ne voulait pas accorder justice à la veuve. Il ne voulait pas y régler son problème, puis y donner raison, puis y faire gagner son point. Puis là, la veuve, elle voulait avoir justice. Elle allait voir le juge, puis elle l'achalait, puis elle l'achalait, puis elle l'achalait. Puis là, finalement, le juge, il s'est tanné, il a dit, là, c'est pas parce que je suis bon pour y rendre justice, non. Je suis tanné de me faire achaler, je vais y accorder ce qu'elle a demandé, parce qu'elle est trop achalante. Puis là, Jésus qui a dit cet exemple-là, cette parabole-là, il voulait se servir de ça pour nous encourager à avoir la même attitude que la veuve. Il dit, écoutez ce que dit le juge inique, là. Considérez ce qu'il a répondu dans sa parabole, que là, il était tanné de se faire achaler, puis là, il a dit, je vais y accorder. Puis là, il dit au verset 7 et 8, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? » Ce qu'on doit comprendre dans ce verset-là, premièrement, là, il nous encourage à imiter la veuve qui achale, puis qui achale, puis qui achale. Puis si un juge méchant finit par céder, puis finit par l'accomplir, à combien plus forte raison le Dieu d'amour, miséricordieux, compatissant, le Dieu qu'on sert, va répondre rapidement à ceux qui lui demandent. Mais ce qu'on remarque, comment Jésus interprète ça, que la veuve achalait le juge, comment Jésus interprète ça, on le voit dans le verset 7. Les disciples, ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Ça, c'est comme un encouragement à prier sans cesse. On en a parlé la deux semaines. De prier sans cesse, jour et nuit. T'es debout, tu penses à ton problème, tu présentes ça au Seigneur. T'es debout encore la nuit, tu penses encore à ton problème, tu présentes ça au Seigneur. Le lendemain, tu y représentes encore. T'es debout d'après-midi, tu y représentes encore. Jour et nuit, tu peux représenter tes requêtes. C'est pas nécessairement appelé comme de la répétition ou de la récitation. Ça, on va le voir un peu plus loin, ce qu'on doit pas faire, de réciter. Tu sais, après, apprendre une prière par cœur, puis « Ah, notre Père, qu'est-ce que tu veux dans nos yeux? » Puis là, tu répètes « Notre Père, qu'est-ce que tu veux? » Là, tu répètes « Notre Père, qu'est-ce que tu veux? » C'est pas de la récitation qu'il faut faire, ça sert à rien de réciter. Ça, c'est des paroles vaines que les gens qui connaissent pas Dieu vont prier comme ça. Mais prier pour une affaire à répétition, c'est correct. Achaler pour avoir l'affaire, tu as le cœur aussi à vouloir obtenir ce que tu demandes. Tu le veux, tu le réclames, puis tu insistes, puis tu y demandes, puis c'est comme si tu étais après ses culottes, puis tu tires, oh, bah, ouais, non. Puis là, tu l'achales, puis tu l'achales, là, tu es là, puis tu le tires, même. Là, il dit, correct, t'es donc bien fatigué, t'es là, là. Il va te le donner. C'est ça qu'il dit il donne cet exemple-là de la veuve, puis il nous rajoute cette idée-là de prier en achalant sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait quand on achale sans arrêt? On est en train de démontrer qu'on a de la foi. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux, qui, à les disciples, qu'il y avait un démon dans un enfant, puis qu'ils n'ont pas été capables de le délivrer? Puis après ça, ils s'en vont voir Jésus, puis ils demandent à Jésus comment se fait qu'on n'a pas été capable de le délivrer. Pourtant, il avait été envoyé pour chasser les mauvais esprits, puis guérir les malades, puis ils n'ont pas été capables. Jésus lui a dit, c'est à cause de votre petitesse de foi. Vous n'avez pas assez de foi. Vous auriez été jusqu'à jeûner, là, vous l'auriez eu. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Si t'insistes quand tu demandes de quoi, puis t'insistes, tu demandes, puis tu lâches pas, puis tu peux même jeûner, ça va, tu vas l'avoir. Dieu va le faire. Il veut voir notre grandeur de foi. C'est une réponse à notre foi. Faut pas être délâcheux. C'est ça qui est l'idée. Jésus, c'est ce qu'il veut nous dire. Prie jour et nuit. Puis, Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, ça c'est une promesse, il leur fera promptement justice. Fait que promptement, ça veut dire rapidement justice. Dieu va répondre rapidement après quelques jours et nuits. C'est pas... Tu fais une prière une fois, puis tu dis, ah, Dieu m'a pas exaucé. Pas juste une fois, là. C'est ça, c'est l'ère de l'an 2000, ça. Que tu mets une pièce dans la machine, tu payes sur le piton, puis le gâteau, il tombe tout de suite. C'est dans l'ère d'aujourd'hui qu'on pense de même. Ça a jamais été comme ça, rapide comme ça, dans les temps. Avant, il fallait que tu ailles couper le bois, puis tu te fasses un feu, puis tu t'écrases tes grains, fais de la farine, tu ramasses tes ingrédients, t'en avais peut-être une semaine à ramasser tout ça te prenait pour faire ton gâteau. Puis là, tu finissais par le faire, ça prenait du temps à avoir quelque chose en ce temps-là. Mais nous autres, rapidement, c'est qu'il faudrait que Dieu m'exauce tout de suite dans la même foi que je l'ai demandé la première fois. Mais ça n'a jamais été question d'être là. Ça a toujours été question. Tu pries, puis il va te répondre rapidement au bout de plusieurs jours et nuits. Pour lui, c'est rapide, ça. Mais demander, réclamer, prier, des prières, des supplications... Se supplier, c'est un peu plus intense que juste demander. Tu demandes, ça c'est demander, c'est prier. Prier, c'est demander. Mais supplier, c'est y mettre de l'émotion, puis du cœur, puis il y en a qui vont aller jusqu'à pleurer. Jésus, lui, il était jusqu'à suer, puis il suait pas juste de la sueur, il suait du sang, ça c'est en agonie, mais... L'idée, c'est qu'il y a différentes intensités dans la prière, mais ce qu'on doit apprendre à développer, au moins, c'est de prier sans cesse, jour et nuit. Pensez à ton affaire, là, tu penses à ton affaire, tu la réclames, tu y repenses une heure après, parce que t'as pas juste cette affaire-là dans la tête, on a d'autres sujets. Tu peux être en train de prier n'importe quand. Comme qu'on a dit aussi, tu peux être en train de travailler puis prier, tu peux être en train de laver la vaisselle, tu peux être en train de manger, tu peux être en train de conduire ton véhicule, tu peux être dans ta chambre, tu peux être partout parce que Dieu il est partout puis il entend nos prières. L'important c'est de commencer à prier puis de pas lâcher, de prier avec une persévérance, ferveur mais avec persévérance. Lâchons pas de demander ce qu'on réclame. Il y en a des prières, là, c'est 20 ans plus tard qui vont être exaucées. Il y en a des missionnaires qui ont travaillé dans des places, dans des histoires que j'ai entendues. J'étais pas là, mais quand même, ça doit y avoir un fond de vrai. Ils ont travaillé pendant 20-30 ans dans un territoire à essayer d'évangéliser et d'amener des âmes au Seigneur dans une place où il a fallu qu'ils apprennent le langage puis écrire la Bible dans leur langue. Puis c'était tout un travail à long terme, puis il n'y a même pas de personne qui s'est converti. C'est après que c'est mort que le monde a commencé à se convertir. Mais son travail est important. Il était comme il a tout développé ce que ça prenait. Mais Dieu travaille aussi à long terme, à longue haleine. Il y a des prophéties annoncées dans la Bible. Ça fait 3000 ans qu'ils ont été annoncées et ne sont pas encore accomplies. Ils vont s'accomplir, là. Le retour de Jésus, c'est annoncé dans l'Ancien Testament. Là. C'est pour dire que Dieu, il travaille. Puis nos prières, comme je l'ai dit, sont pas oubliées. Ils sont toutes récupérées, puis il les garde toutes. Ils sont toutes dans sa coupe, puis Dieu va s'en servir à la fin dans ses jugements. Persévérons dans la prière, jour et nuit. Puis la question qui est posée, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Puis ça, c'est une bonne question. Parce que c'est dans le verset 8 de Luc 18, 7 et 8. Jésus s'y pose cette question-là, c'est parce qu'il sait qu'il y en a qui vont être debout lorsque Jésus va revenir. Mais il y en a qui vont avoir abandonné. Mais s'il nous pose cette question-là, c'est pour qu'on se remette en question. Il ne faut pas penser qu'on est des super-hommes dans la super-foi. Non. Dans le temps de Jésus, les apôtres avaient de la super-foi. Nous autres, souvent, on a de la faible foi. Même au début de leur vie chrétienne, les apôtres avaient une faible foi. Les 12 apôtres, là, Jésus les a répétés souvent, « Hommes de peu de foi, puis vous manquez de foi, puis vous avez douté. » Il lui disait que c'était pas assez. Ça lui prenait plus de foi que cela. Mais s'il dit ça là, c'est parce qu'il nous donne cet exemple-là d'imiter l'aveugle, parce que ça démontre de la foi. Il veut voir du monde comme ça, mais que Jésus revienne. Du monde achalant, puis qu'ils savent ce qu'ils veulent, puis qu'ils le demandent sans arrêt. C'est ça que Dieu cherche, des gens comme ça. Des fatigants. Dieu aime les fatigants. Il dit, fais connaître tes besoins. Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin de sagesse? As-tu besoin d'intelligence, de révélation, de connaître la parole? As-tu besoin de guérison, des délivrances? As-tu besoin de la nourriture? As-tu besoin de l'aide dans quelque chose? As-tu tes besoins, peu importe tes besoins, tu peux y faire connaître tous tes besoins. Moyen de transport. Même s'il te le pourvoit déjà, faut que ça continue. Fait que tu peux déjà demander tout le temps, puis te bénir, même ceux qui t'ont avec l'action de grâce. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont répondu à mon besoin. Parce que Dieu a déjà pourvu à ton besoin. S'il l'a déjà pourvu, il mérite d'être remercié. C'est ça. Colossiens 4:12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Wow! Ça, c'est encore un beau verset pour nous montrer comment est-ce qu'il y a des gens qui étaient des combattants. On a parlé dimanche qu'on est des soldats, mais un soldat, ça combat. De quelle façon que ce gars-là combattait, Épaphras? Mais il combattait dans ses prières. Il pensait aux autres, il devait prier aussi pour ses besoins, mais il pensait aux autres, puis pour lui, c'est important, les autres. Puis l'idée qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que, puis est-ce qu'on veut être des vrais soldats, puis des soldats prêts à recevoir des médailles de notre Seigneur? Parce que, tu sais, quand il y a des médailles d'honneur qui sont distribuées, quand il y a des soldats qui ont été au front, puis ont vécu telle et telle chose, ils ont remporté des victoires, ils reviennent après ça, puis c'est quoi? Le couronnement. Ils reçoivent leurs médailles, puis ils deviennent tout plein de pendentifs, de décorations sur leur habit. Puis sont fiers de porter leur décoration, puis ils ont mérité leur décoration. Mais on est des soldats, puis un jour, il va y avoir des décorations. On n'est pas encore rendu au temps des décorations. On est encore dans le temps de combattre.
Tu préfères, il sera donné selon l'ordre?
Chacun va recevoir selon ses œuvres. Et la prière, il y en a qui disent, oh, ben moi, je ne sais pas quoi faire dans l'œuvre de Dieu. Mais commence donc à prier. Prier, là, ça a de l'air petit, là, ça a de l'air facile même, c'est tellement facile que tout le monde pourra prier, mais c'est excessivement important. Il y en a qui ont plus de dons que d'autres pour cela, plus de facilité, mais tout se développe. Amen. Si on n'a pas le don, il faut le demander à Dieu. Ça fait partie des besoins. Exactement. Exactement. C'est ça qu'il faut développer parce qu'on le voit, lui, dans ce verset-là, il dit « Il ne cesse de combattre ». Ça veut dire qu'il n'a pas prié juste une fois. C'est régulièrement. Il va avoir sa liste. « Ah, l'église de Corinthe. Ah, l'église de Colosse. Ah, l'église de Thessalonique. Ah, l'église. » Là, il devait prier pour les frères et sœurs qu'il connaissait parce qu'il avait accompagné Paul puis il a vu tous ces hommes-là accepter le Seigneur dans toutes ces places-là. Puis là, il devait prier pour les besoins. Puis ce qu'il voulait le plus dans son cœur, c'est que les gens deviennent parfaits. C'est ça qu'il dit. Parfait et pleinement persuadé, ça veut dire des gens qui deviennent des gens de foi, des gens convaincus, sont persuadés, ils ne branlent pas dans le manche, ils sont chrétiens, ils savent que Jésus, c'est le sauveur, puis ils marchent avec le Seigneur, puis il dit qu'ils persistent en plus dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Des gens qui sont soumis à obéir à leur maître, à obéir à la parole de Dieu, à marcher conforme à la vérité, parce que c'est beau dire qu'on croit en Jésus, mais si on ne veut pas se soumettre, on n'est pas réellement repenti. On n'est pas en train de se convertir.
La soumission, c'est les 10 commandements.
C'est ça. Et ça, ça comme un... Jésus les a toutes repris. C'est la base, ça. Puis Jésus les a toutes repris, les 10 commandements. Jésus puis les apôtres, ils n'ont reparlé. Puis l'humilité, puis il y a toutes sortes de traits de caractère. La prière, c'est une chose qui est aussi à développer. Fait qu'en réalité, on est venu au monde tout dans le Seigneur. On était tout croche, puis là, il nous a sortis de là pour nous amener à finir, à devenir parfait. Devenir parfait, c'est devenir comme Jésus. Quand tu deviens comme Jésus, tu vas être saint, tu vas être pur, sans péché. Un homme ou une femme prête à aller faire le travail, il dit ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Tu veux t'investir dans l'œuvre. Dans Éphésiens 1:16. L'apôtre Paul, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Tout à l'heure, on a vu que Épaphras combattait pour les autres, mais Paul aussi priait pour les autres. Paul est un gars qui ne cessait, lui non plus, de prier sans cesse. C'est lui qui écrivait de prier sans cesse. Fait que l'idée, c'est qu'il non seulement il connaissait la théorie, mais il le mettait en pratique. Ça, c'est ça qui est le point. Tu peux le savoir, il faut que tu pries, mais si tu ne pries pas, ça ne change pas grand-chose. Il le mettait en pratique, et en plus, qu'est-ce qu'il faisait en plus de prier pour les autres? Il rendait grâce. Quand on parlait tantôt des actions de grâce, mais il rend grâce à la même affaire, dit des remerciements. Parce que, merci pour Valérie, Seigneur, qu'est-ce qu'elle marche dans le Seigneur, puis ça. Mais Seigneur, je te demande de... Puis là, tu rajoutes des affaires qu'elle a de besoin. Fait que tu fais des actions de grâce pour la personne, puis en même temps aussi, tu demandes selon ses besoins. Puis ça, il veillait à cela envers tous les saints. Tous ceux qu'il connaît, il repassait tout le monde, lui, sans arrêt, parce que c'était un homme de prière. S'il a eu tant d'efficacité dans sa vie, c'est parce qu'il avait aussi une vie disciplinée à faire ce que Dieu demande. Puis il l'a vécu, puis il a donné l'exemple, puis ça lui a porté beaucoup de fruits. 2000 ans plus tard, on a encore ses écrits, puis on s'en sert pour marcher dans le Seigneur. Fait que merci Seigneur pour les hommes comme les premiers apôtres qui sont venus puis qui nous ont enseigné, qui nous ont fait parvenir ces livres-là. Faut remercier le Seigneur pour les livres qu'on a. Merci Seigneur pour les études bibliques qu'on a pour étudier ces livres-là, pour grandir dans la connaissance, que nos yeux s'ouvrent, puis qu'on puisse commencer à pratiquer ce qui est écrit, puis qu'on puisse expérimenter aussi tout ce qui est promis. On va grandir si on s'embarque dans cette grande œuvre-là de prier. Amen.